Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous nous rendons cette fois-ci au GAEC du Bousquet, au bord du Dourdou, où nous reçoit Virginie qui nous décrit les différentes activités de la ferme. Bonjour, alors est-ce que tu peux te présenter déjà ?
Bonjour, alors moi je suis Virginie Lignon de la ferme du Bousquet à Calmel-Sélevial.
Calmel-Sélevial, d'accord. On est juste à côté du Cambon.
C'est ça.
D'accord. Qu'est-ce que vous faites sur votre ferme ? Qu'est-ce que vous produisez ?
Alors, on a des légumes, des poules pondeuses et des céréales. Et après, on transforme nous-mêmes en farine, pain, pâte, biscuits, viennoiserie.
Vous transformez vous-même la farine que vous produisez ?
Voilà, d'accord. C'est ça.
Et vous avez combien d'hectares sur cette ferme ?
Une centaine d'hectares.
Centaine d'hectares ?
Voilà, on a aussi des brebis laitières.
D'un seul tenant, les 100 hectares ? 100 hectares ?
Oui, globalement. Ouais.
D'accord. Et les brebis, vous en avez combien à peu près ?
650.
650. Et les poules ?
Des poules, 150.
D'accord. Ben, ça fait une belle crèche.
Un joli cheptel.
Ah oui, quand même.
On a aussi quelques enfants.
Oui, qui plus est. Mais bon, je pense que vous allez pouvoir en tirer un bon prix, ça. Comment vous faites pour vendre toute cette production ?
On vend en direct tout ce qu'on transforme nous-mêmes. Mm-hmm. Quasiment tout. Hein. Et ensuite, le lait, il va à Roquefort pour la fabrication des fromages.
D'accord. Donc, vous avez la boutique à la ferme ?
On a une boutique à la ferme depuis 2016, depuis qu'on a commencé à transformer les céréales, les légumes et les œufs. Mmh. Voilà, et ensuite, on vend dans des magasins de producteurs.
D'accord. Sur Sainte-Afrique ?
On est dans 5 magasins. Les plus proches de la ferme, ça va être Sainte-Afrique, Millau, Rodez, Albi et La Malou. Jusqu'à 1h, 1h15 de route de la ferme.
D'accord, La Malou. Et c'est vous qui allez tout amener là-bas ou c'est eux qui viennent vous chercher les marchandises ?
Alors, c'est nous qui livrons, et en plus de ça, comme on est associé dans ces magasins, on tient aussi des permanences. Voilà, on participe à la vente.
Alors, et pourquoi vous avez choisi de faire autant de productions différentes ?
Ben, c'est un petit peu une histoire de famille. Hein. La ferme, on est la 5e génération, avec mon frère à être ici. Et donc là, actuellement, on est 3 couples à travailler sur la ferme. C'est aussi pour ça qu'on a tant de diversité. Mmh. Parce que chaque atelier, enfin, ça peut paraître être une grosse ferme, mais c'est plusieurs petits ateliers additionnés. Voilà, et chaque personne est responsable d'une production. Mmh. Et donc, on a un parcours tous différent, mais on s'est retrouvés à prendre la suite de mes parents, qui étaient 2, qui faisaient uniquement des brebis laitières. Et en 2008, ma maman a commencé à vouloir s'orienter vers la vente directe, donc elle a commencé l'atelier de maraîchage. Et puis quand mon frère et moi, après nos études, on a voulu travailler à la ferme, on a apporté des productions diversifiées, voilà, pour que tout le monde puisse vivre ici de la ferme. Quoi.
Et je vois que vous avez une partie des bâtiments qui sont assez récents là. C'est justement en ayant pris l'option de produire et de vendre sur place, enfin, de transformer, pardon.
Oui, c'est pour ça qu'on a fait l'atelier, en fait, ici, l'atelier dans lequel on est, il date de 2016, et ça nous permet de faire la farine, et puis après le four à pain. On a les différents ateliers pour faire les pâtes, les pâtisseries, les viennoiseries, et on a aussi un petit endroit pour laver les légumes, voilà.
D'accord.
Bureau, une petite boutique à la ferme.
Donc la ferme est en GAEC ?
Oui.
D'accord.
Ça.
Ok. Et vous faites comment pour, si je puis dire, vous répartir le fruit de votre travail ? C'est un pot commun ou chacun, selon la spécialité qu'il a gérée, il tire ses revenus que de sa spécialité ?
Non. C'est vraiment. La ferme, c'est un ensemble. On vit tous de différentes productions et c'est pas séparé, il y a une entraide forcément entre nous. Il y a des fois un atelier qui demande plus de main d'œuvre, on peut participer tous à des grosses journées comme des moments où c'est qu'il y a la tente par exemple, des brebis, s'il y a une récolte particulière au maraîchage, voilà, on s'entraide et du coup après c'est réparti en fonction du travail de chacun. Enfin, c'est un pot commun, voilà. Et on a tous la même partie, enfin, on en tire tous le même salaire, à peu
D'accord.
près.
D'accord. Voilà.
Et comment vous débrouillez pour la répartition des terres entre la production de céréales, les prairies pour le pastoralisme? J'imagine que vous avez des serres pour faire les légumes.
C'est ça. Alors, pour les légumes, on a... Mais en fait, c'est... l'historique de la ferme, c'est les brebis laitières, comme je t'ai dit. Ouais. Et donc, du coup, au début, tout était dédié pour les brebis laitières. Puis, petit à petit, on a mangé là-dedans. Mmh. Donc, on a pris 1, puis 2, puis 3 hectares, là, actuellement, pour les légumes. Bon, il y a 2 parcours pour les volailles, c'est pas très, très grand. Et puis, à mesure, pareil, pour les céréales, 5, 10, 15 hectares, voilà. Et donc, ça nous a amené aussi à chercher un petit peu... ailleurs d'autres terres pour pouvoir continuer à développer la partie farine.
Donc, 5 générations à la ferme. Tu t'es posé la question de savoir si tu allais être agricultrice ou pas, ou c'était tellement évident que...
Non, je pense que dans mon enfance, à des moments, c'était par imitation de mes parents, voilà, de prendre la suite, ça me paraissait logique. Puis à un moment, c'est que j'ai changé, et puis voilà, finalement, j'ai fait mes études et je suis revenue par choix. Voilà. Alors que j'ai pas forcément fait des études là-dedans, moi je suis infirmière, et par choix de qualité de vie, de matière aussi, de qualité de produits, c'est aussi lié un petit peu, c'est un peu la même chose, j'ai envie de dire, de prendre soin des gens, de prendre soin de leur santé et de proposer des bons produits. Mmh. Ça se rejoint un peu.
Oui, ne dit-on pas que l'aliment est le premier médicament?
C'est ça.
Est-ce que vous en vivez bien de votre ferme? Est-ce que vous n'avez pas des crédits par-dessus la tête? Est-ce que vous pouvez partir en vacances?
Si, bien sûr qu'on a des crédits parce que notre génération, quand on s'est installé, donc on est 4 jeunes. On a fait des crédits et c'est un peu... mes parents avaient fait la même chose quand ils sont installés, donc c'est l'outil de travail qu'on crée, l'atelier ici en l'occurrence, donc qui va nous permettre de travailler toute notre vie. Donc effectivement, on a ce crédit-là. Après, depuis 2016, on va dire qu'on commence à être équilibré. Voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Ça roule pas complètement, on va dire. Mais on vit de notre travail, oui. Est-ce qu'on part en vacances? Ça dépend. Sur les 3 couples, il y en a qui partent plus ou moins en vacances que d'autres. Mais c'est vraiment aussi suivant les souhaits des gens. Voilà, il y a des gens qui sont plus casaniers que d'autres. Voilà. Donc moi, je sais que personnellement, avec mon mari, on prend une semaine de vacances par an et quelques week-ends par-ci, par-là.
D'accord. Voilà. Et toi et ton mari, vous êtes spécialisé sur quoi?
Alors, mon mari est sur le maraîchage. Uh-huh. Et moi, je suis sur la pâtisserie et la vente. Et bon, on a tous plusieurs casquettes quand même. Parce que alors, mon mari fait le maraîchage, mais il fait aussi un peu de gestion des ressources humaines. Moi, je fais aussi du packaging, de la communication. Voilà.
C'est ça, un paysan, il faut avoir beaucoup de casquettes.
C'est ça, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Je pense que c'est ce qui m'a plu moi personnellement aussi, c'est le fait de ne pas avoir vraiment quelque chose de routinier la diversité de choses qu'on peut être amené à faire au quotidien.
Ouais. J'ai une petite question philosophique. Est-ce que tu es prête?
Allez, c'est parti.
J'imagine que vous avez, peut-être vous avez des stagiaires de temps en temps qui viennent vous voir, etc. Est-ce que toi, tu leur conseilles le métier d'agriculteur?
Alors...
Et si tu leur conseilles, sur quoi tu les mets en garde?
On ne va pas déconseiller parce que nous, ici, on se plaît dans ce qu'on fait. Mais on a une sacrée organisation du fait qu'on soit 6 et qu'on ait du foncier, on va dire, dans lequel on vit aussi. Ça, c'est des choses qui sont facilitantes. On s'entend bien ensemble, on vit sur place. Voilà. Et il faut savoir que quand c'est une personne qui s'installe, si la personne est en couple par exemple et que l'autre personne travaille à l'extérieur, ça peut être très chronophage ce temps de travail. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc quand les stagiaires viennent ici, on essaye de leur faire voir tous les points, autant positifs que négatifs. Et puis... Et puis après, j'espère que de par notre mode de vie ici, on donne aussi envie aux gens, malgré tout, malgré toutes ces contraintes, de voir qu'on peut vraiment être heureux en étant paysan.
Ouais. Donc toi, tu as commencé l'agriculture il y a combien de temps à peu près? Je ne sais plus si tu me l'as dit.
J'ai commencé en 2013.
2013,
ouais.
Donc ça fait 8 ans.
C'est ça.
Ok. Bon, n'empêche, tu as grandi dans ce milieu-là. Et de ce que tu vois, de ce que tu sais, est-ce que tu as l'évolution qu'a eu l'agriculture jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée de ce qu'elle va devenir dans les 10 ans, dans les 20 ans?
J'ai l'idée de ce que j'aimerais qu'elle devienne.
Oui, bah déjà, ça c'est bien.
De ce qu'elle va devenir, je ne sais pas.
Ouais.
Mais bon, moi après, je suis quelqu'un d'assez optimiste et j'ai tendance à voir les bons côtés des choses. Donc ce que je vois, c'est qu'autour de nous, il y a de plus en plus de fermes qui passent en bio. Nous, on est en bio, enfin, on n'a pas parlé, mais on est en bio depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans.
Mmh.
Donc ça c'est bien, quoi. On voit que certaines pratiques évoluent. Et puis, donc voilà, on parle d'agroécologie. Il y a des mouvements très sympas qui sont qui évoluent dans un sens que voilà, j'affectionne particulièrement. Après, de ce qu'elle viendra, je sais pas, je pense qu'il y a quand même des batailles à mener pour que ça je sais pas exactement comment dire ça, mais pour que les paysans puissent continuer à vivre de notre travail, tout
ouais.
simplement, sur plein de niveaux. Au niveau de la communication, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que moi aussi j'ai accepté de participer à cette interview, parce que c'est important qu'on prenne la parole, c'est important qu'on soit entendu. Comme je disais, ouais, que c'est très important qu'on puisse s'exprimer et puis qu'on soit entendu. Ça, c'est sur l'aspect de la communication, parce que c'est vrai qu'on on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux notamment, et c'est important que la parole des agriculteurs elle soit aussi présente, parce que c'est pas forcément vraiment ce qui se passe dans la réalité.
Mais c'est pas représentatif.
Voilà, c'est pas représentatif. Donc nous, pour ça, on va accepter de communiquer comme je le fais maintenant. On va aussi ouvrir nos fermes pour pouvoir parler avec nos clients.
Ouais.
Ça, c'est super important. C'est je sais plus comment.
Et sur le modèle économique ou le problème du foncier, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont évoluer? Est-ce que on sera toujours payé à l'hectare, subventionné à l'hectare? Est-ce que on sera toujours dépendant d'une grosse boîte comme Société ou Roquefort pour valoriser son lait?
Je ne sais pas comment ça va évoluer en ce sens-là. Pour l'instant, on peut encore faire des choix de s'orienter vers de la vente directe. Pour l'instant, on a encore cette possibilité-là, mais c'est vrai que la vente directe grignote un peu de marché sur les grandes surfaces, et donc on va être, je pense, de plus en plus embêté pour être bien dans les clous et pour pas qu'on... pour qu'on respecte la loi, voilà, on va dire, on va être même dénoncé par des lobbies bien plus puissants que nous, sur lesquels on va commencer à faire un peu d'ombre. Ça, c'est le futur, mais c'est aussi le présent. Ça commence déjà, donc je me dis que ça risque d'évoluer dans ce sens-là. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de combats à mener pour se défendre, pour défendre notre agriculture. Les magasins de producteurs, c'est des magasins qui font de plus en plus de chiffre d'affaires. Et qui en grignote sûrement aux grandes surfaces.
Ça attise des convoitises.
Et voilà, ça attise des convoitises, et donc des contrôles fiscaux, des contrôles d'hygiène arrivent de par ce biais-là, parce qu'ils ont le droit de nous dire que ça vient d'un lobbying.
D'accord.
Voilà.
Mais un lobbying peut demander à un fonctionnaire de faire un contrôle.
Alors après, je sais pas qui c'est qui a fait comment, ouais, ça, ouais. Je sais pas du tout. Mais ça a bien dû se passer d'une certaine façon comme ça, parce que c'est ce qui nous arrive.
Ouais, d'accord.
C'est ce qui nous arrive, hein, en Aveyron, on est en train de faire jurisprudence pour les magasins producteurs de France, là, actuellement.
Ah oui?
Ah ouais, ils sont en train d'essayer de faire passer des lois suite à des visites ici, des contrôles ici, pour l'appliquer partout, quoi. Donc il y a les organismes qui gèrent les magasins producteurs, du genre... Terre d'envie, les boutiques paysannes, la pompe, voilà, qui se regroupent pour essayer de qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds, quoi.
Ouais.
Mais bon, la loi, c'est la loi, on peut l'interpréter de différentes façons, c'est pas forcément clair. Et c'est ce qui, ouais, pour l'instant, chacun essaie de tirer à la place de son côté, mais ça ne nous est pas forcément favorable. On a à peu près une quinzaine à vivre de cette exploitation. Là où il y a quelques années, c'était deux.
D'accord. Vous avez des salariés ?
Oui, on a des salariés qui travaillent avec nous sur toutes les productions. Et donc c'est aussi l'idée de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 000 hectares par personne. Après ici, c'est adaptable à chaque terrain. Alors sur le Larzac, c'est différent. Hein, pour en vivre, il faut un peu plus de surface vu que la terre elle est différente, on va dire. Mais voilà, c'est quand même pour montrer que voilà, on peut, on n'est pas obligé de faire la course à l'hectare, la course à la prime pour vivre bien.
Oui. On a l'impression qu'il y a une partie de la population agricole qui vit presque exclusivement des subventions à l'hectare.
Oui, quand on circule en voiture et qu'on voit des bois qui sont déboisés, qui penchent comme ça, bon, clairement, voilà, c'est la première hectare. Et il y a des gens qui viennent en plein.
C'est qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. À Maui, il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit, petit gars, là-bas, on t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit, après 9 mois à peine, te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer. Rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Rien que les odeurs remplissaient tous mes voeux. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Aussi belle que nature, me prit par la main et me dit suis cette aventure. On disait même au oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin. Ses boucles dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. D'enfants qui n'ont pas de limites comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, où des fleurs volaient caressant l'horizon. J'ai vu des arbres pousser en plaçant les gratte-ciel. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà.
On est vraiment au bord du Dourdou, là.
Oui.
Vous devez avoir des terres assez, assez riches, non ? Assez arables.
On a des bonnes terres, effectivement, au bord de rivière. Du coup, on en profite, par exemple, pour mettre les parcelles de maraîchage.
Ouais.
En compensation, il faut accepter que ce soit inondable.
Oui, hélas.
Voilà.
D'accord. Et tu sais de quand date la ferme, à peu près, ou pas ? La date de sa construction ?
Alors, ici, c'est pas nous qui l'avons construit. Elle a été achetée par mon arrière-arrière-grand-mère il y a 100 ans.
D'accord.
Nous deux ans près. Et après, sur les bâtiments, on peut voir différentes dates du début du siècle, mais je ne saurais pas exactement dire quand elle a été construite. Ouais.
Elle est vachement sombre, la pierre.
Ici, on est en Le Rougier.
Ouais, je sais bien, mais.
Au bord du Rougier.
Mais là, elle est presque marron, quoi.
Elle a fané un peu par le soleil.
Ouais, peut-être. Elle a bronzé.
Ouais, elle a bronzé, pardon.
Voilà, vous avez des médailles?
Oui, ma soeur, elle avait des chevaux quand elle était là. Ouais. Maintenant, elle est partie au Canada, mais.
Ah, d'accord.
Voilà, ça, c'est une médaille de l'équitation. Ah non, ça, c'est le cœur de nos maisons. On a chacun sa maison ici.
D'accord.
Ça, c'est une partie commune, on va dire, qu'on partage. Ouais. Pour des moments de détente.
Et avec la piscine hors sol et tout. La classe. Et là, ça bosse.
Voilà, donc ça, c'est notre parcelle de maraîchage. Mm-hmm. Donc là, il y a mon mari qui est en train de travailler et préparer le sol.
C'est le stagiaire qui est avec lui?
Alors,
dont tu
non,
parlais
c'est un salarié. Ça, c'est Michael qui a commencé à travailler il n'y a pas longtemps. C'est un saisonnier là, qui vient de mai jusqu'à novembre.
Mm-hmm. Voilà. D'accord.
Il est en train de
travailler. Et donc, tout ce qu'on voit ici, c'est à vous? Ou presque?
Oui, le maraîchage, oui. Après,
le maraîchage,
les champs aussi en bas, voilà, juste en dessous. Après, en fait, c'est de la rivière, non, c'est pas.
Ok. Les desserts, ouais, ils sont gigantesques. Ça fait quoi, 50 mètres de long, les serres?
C'est ça. 50
sur 20 de large, à peu près? 20-25?
Un peu moins, ça.
D'accord. Et vous en avez combien?
Une. On a deux grandes comme ça là, ouais. Et après et deux petites. Ouais.
D'accord. Ok. Les chiens, c'est pour la chasse là?
Oui.
D'accord. Putain, mais vous avez tout bien goudronné et tout par terre. On se croirait dans un village. C'est vrai, hein?
Oui, c'est.
Ben, on est à la place du marché là. Et...
C'est ça. C'est... on est un petit village, hein? C'est une.
Ben ouais, ouais.
Il y a toujours des enfants qui jouent. Mmh. Les gens qui viennent nous rendre visite et tous les gens qui travaillent.
C'est vrai, il y a le passage ici.
Et ben, on l'a souhaité aussi en ouvrant la boutique à la ferme, ouais. Vraiment se rendre assez accessible. Allez-y. Pour que les gens ils puissent venir sur place et se rendre compte de comment on travaille. C'est très important. Ouais. Ce que je fais avec vous ici, le petit tour, ben, je peux être amené à le faire avec des visiteurs et puis ils rencontrent le maraîcher, ils vont pouvoir poser des questions, à pouvoir voir l'élevage. C'est très important de voir l'élevage parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, tous les reportages, les gens ont des mauvaises images. Certaines sont vraies, malheureusement, hein. Mais bon, on est là aussi pour dire, voilà, venez, nous.
Mais le problème de ces images-là, c'est qu'on te montre l'exception. Qui est accepté du coup comme une généralité, quoi.
C'est exactement ça, hein, parce que nous, on ouvre nos portes sans problème, mais si, par exemple, une personne se focalise sur le petit agneau qui a les pattes mal formées, ben, ils vont se dire, voilà, s'il filme que celui-là, ou qu'il s'est photographié que celui-là, la personne, ben, si elle exporte ses images, ils vont se dire, ben voilà, là, il s'occupe mal des animaux.
Ouais, c'est comme ça qu'ils bossent.
Ouais. Alors que c'est pas le...
Il a croisé, il se demandait, mais il a pris...
Les loups?
Ouais, donc toi, tu es particulièrement attaché à la communication.
Ça
te semble important, et la relation client aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ça, c'est des choses que j'apprends sur le temps, on va dire. Mais, oui, effectivement, c'est des choses qui sont importantes, qui font maintenant partie intégrante de notre métier, j'ai envie de dire.
Ouais.
C'est pas de la production, mais c'est, c'est tout aussi important.
Tu es un peu obligé, en fait, quand tu fais de la vente directe. Il faut que tu fasses parler de toi, il faut que tu ailles chercher les clients, il faut que tu aies des débouchés pour tes produits, quoi.
C'est ça,
et
exactement.
La communication, ça aide beaucoup à ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Bon, là, on verra pas les brebis, elles sont dehors.
Elles sont en pâture.
Ouais.
Donc la serre à semis.
Ouais, ça, c'est la serre à plan.
D'accord.
Voilà.
Vous allez tous les produire ou vous vendez des plants aussi?
Oui, ici, on va semer pour nous et pour nos clients aussi.
Ah, d'accord.
Ouais. Et là, aujourd'hui, après quelques jours, après beaucoup de jours de pluie, il fait enfin beau, donc c'est la récolte du foin.
Ah, ça y est.
Oui.
Et il va faire beau, là, dans les jours à venir?
Alors, la météo, elle est très changeante.
Ouais. Ils sont pas sûrs.
Là, il y en a quelques jours de beau, donc...
Ok, le séchage en grange. Voilà, donc, c'est dans la piscine qui est sur la gauche, là.
Voilà, ici, on a quatre cellules de stockage.
Et tu fais tout l'hiver avec
ça? Et ben, si ça se passe bien, oui.
D'accord. Oui, si l'hiver n'est pas trop long, quoi.
Si l'hiver n'est pas trop long, si la récolte a été bonne, de bonne qualité, assez.
D'accord, ouais.
Ça fait beaucoup de scie, mais ça, dans l'agriculture, c'est tous les jours.
Oui. On vit avec des scie. D'accord. Voilà, c'est un énorme. Alors, j'essaye d'expliquer un peu pour nos auditeurs. La piscine, elle fait, je sais pas, 80 mètres de long.
Oui.
Et elle est à 5-6 mètres de haut.
C'est ça.
Et en largeur, je peux pas me faire une idée. Mais...
à peu près 8-10 mètres.
D'accord.
Ouais.
Ça fait une sacrée. Ça me fait des tonnes de... d'herbe.
Et oui, mais c'est important de pouvoir tenir toute la saison, ouais. Toute la saison hivernale avec de la nourriture de bonne qualité pour les brebis, ouais. Pour pouvoir faire du bon lait.
Ouais.
Voilà.
J'ai vu aussi qu'on est passé devant les poupoules.
Exactement.
Les poules, alors, vous faites que les œufs.
Oui.
Vous ne vendez pas de poulets.
Non, c'est des poules pondeuses qui sont dehors toute la journée,
mm-hmm.
Et qui nous font des œufs qu'on vend en boîte et après on...
D'accord.
Qu'on utilise aussi dans le labo.
Que vous nourrissez avec votre propre production.
Et oui, évidemment.
Non, mais je sais pas.
Évidemment, notre production et celle de nos voisins aux alentours qui font aussi plein de bons produits.
Mm-hmm.
Non, je pense qu'effectivement, c'est au niveau de la qualité de ce qu'on mange, on est vraiment au top. On a beaucoup de chance, on a que des bonnes choses quoi,
ouais,
si
ouais.
On, à proximité. Donc si on le veut, parce qu'on mm-hmm. peut aussi aller en grande surface si on veut. Mais si on veut, on a accès à vraiment des bons produits.
Ouais. Oui, on a de la chance pour ça, Sainte-Afrique, quand même.
Ah, ça, c'est sûr.
Il y a beaucoup de plaisants, et comme tu dis, c'est assez diversifié, quoi. On peut trouver un peu de tout.
Oui, oui, mais il faudrait que tu sois là pendant un de nos repas, mais tout le temps, mes enfants, ils demandent qu'est-ce que c'est qu'on mange,
ouais.
Et ils connaissent quasiment les producteurs de tout.
Ah ouais.
Le yadou, c'est le yadou de Véro,
ouais.
Les légumes, c'est ceux de papa au maraîchage, la viande, tiens, elle vient de tel producteur,
ouais.
Voilà. C'est, pour moi, c'est un quotidien, mais des fois, quand je les entends parler, je me dis, bah... On a quand même réussi à leur apporter quelque chose de sympa, quoi.
Oui.
Et toi, en plus.
Ah, la meuleuse. Ah, c'est le moulin des frères Astruc ou un truc comme ça.
Le connaisseur.
Eh ben oui, non, mais à force.
Alors, c'est un moulin de type Astrier. C'est pas eux qui l'ont fait, parce que les frères Astrier... peut-être qu'ils sont même décédés depuis, parce que déjà, je suis allée les voir il y a quelques années, ils avaient déjà plus de 90 ans, et ils avaient 10 ans d'attente dans leur liste d'attente pour avoir un moulin. Donc je pense qu'ils n'allaient pas déjà honorer toutes leurs commandes, malheureusement. Ah. Mais ils ont formé des gens pour faire des moulins comme eux. Donc nous, c'est voilà, des moulins de type Astrier.
D'accord. Vous êtes allé trouver où ? Je ne sais plus.
C'est mon frère qui
l'a acheté. C'est un Aveyron, c'est
non. Mon point. Non, non, non. Alors là,
d'accord.
Je ne saurais pas dire.
Bon,
c'est mon frère qui s'en est occupé. Je ne sais pas exactement d'où est-ce qu'il vient, mais non, je pense.
Et votre farine, c'est farine de quoi que vous faites ?
Trois céréales différentes. Le blé, le seigle, pardon, et le blé dur, le seigle, le sarrasin et le blé tendre.
D'accord.
Voilà, pour les pâtes. Le blé dur et le blé tendre pour le pain.
Et quand vous faites du pain, c'est pain de seigle, pain de blé ou des fois, vous faites des mélanges ?
On fait des mélanges.
D'accord.
On a un pain sans gluten, on a du pain au seigle qui est un mélange avec un peu de blé, beaucoup de seigle, et on a du pain avec du blé uniquement.
D'accord. Bon, et ben merci beaucoup Virginie.
Et ben avec plaisir.
Ce fut un plaisir.
Merci à Virginie et bravo à elle pour avoir su répondre à cette interview tout en gérant trois enfants en bas âge. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les précédentes sur radiosaintafrique.com, rubrique Paroles rurales. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.